Loue Dieu si elle est inspirée et portée par l'Esprit et si elle est en vérité, c'est-à-dire qu'elle est façonnée, que nos paroles, nos chants, nos actions, si tout cela est façonné par notre connaissance, une connaissance juste de Dieu, si elle est une réponse à notre compréhension de qui est Jésus, de qui est Dieu. Il y a parasite. Je pense que je vais prendre le micro, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je peux prendre l'autre? Voilà. Super. Alors j'aimerais faire un préambule d'abord sur la louange, parce qu'il est question de la louange ce matin. J'avais à cœur qu'on parle de la louange un petit peu ensemble. Alors on appelle communément louange les temps que nous avons au début de rencontre, quand nous chantons, quand nous prions ensemble, et c'est super. Et même si nous allons un peu parler de ça ce matin, bien sûr, et je sais que vous le savez, mais je le répète, sachez que la louange, l'adoration est bien plus que ça, bien plus que ça. La louange concerne notre vie entière. Paul y déclare dans sa lettre aux Philippiens, « Les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ Jésus et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. » Et ici, le mot « rendre un culte » n'a rien à voir avec le fait de chanter ou de lever les mains. Il est plutôt question d'un style de vie, notre manière de nous comporter dans chaque instant de nos vies. Il est question de notre obéissance à Dieu, du fait de s'incliner devant lui, d'obéir au premier de ses commandements que Jésus a rappelé. « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » C'est dans cette position vis-à-vis de Dieu que nous sommes appelés à vivre nos vies. Jésus a dit un jour à une femme samaritaine qui le questionnait sur le lieu où il fallait adorer Jésus. Et Jésus lui répond, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. C'est dans Jean 4, pardon, les versets 22 et 24. Je ne lis pas tout le passage, mais juste ces deux versets. L'heure vient où ce ne sera ni sous cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Seigneur, merci de nous parler ce matin, de parler à nos cœurs, à notre intelligence, au travers de ta parole, Seigneur, au travers de ce que tu nous donnes ce matin. Vraiment, je te prie de poser des fondements dans nos cœurs qui ont peut-être été déjà posés, mais que tu veux nettoyer, restaurer. Loue Dieu si elle est inspirée et portée par l'Esprit et si elle est en vérité, c'est-à-dire qu'elle est façonnée, que nos paroles, nos chants, nos actions, si tout cela est façonné par notre connaissance, une connaissance juste de Dieu, si elle est une réponse à notre compréhension de qui est Jésus, de qui est Dieu. Il y a parasite. Je pense que je vais prendre le micro, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je peux prendre l'autre? Voilà. Super. Alors j'aimerais faire un préambule d'abord sur la louange, parce qu'il est des questions de la louange ce matin. J'avais à cœur qu'on parle de la louange un petit peu ensemble. Alors on appelle communément louange les temps que nous avons au début de rencontre, quand nous chantons, quand nous prions ensemble, et c'est super. Et même si nous allons un peu parler de ça ce matin, bien sûr, et je sais que vous le savez, mais je le répète, sachez que la louange, l'adoration est bien plus que ça, bien plus que ça. La louange concerne notre vie entière. Paul y déclare dans sa lettre aux Philippiens, « Les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ Jésus et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. » Et ici, le mot « rendre un culte » n'a rien à voir avec le fait de chanter ou de lever les mains. Il est plutôt question d'un style de vie, notre manière de nous comporter dans chaque instant de nos vies. Il est question de notre obéissance à Dieu, du fait de s'incliner devant lui, d'obéir au premier de ses commandements que Jésus a rappelé. « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » C'est dans cette position vis-à-vis de Dieu que nous sommes appelés à vivre nos vies. Jésus a dit un jour à une femme samaritaine qui le questionnait sur le lieu où il fallait adorer Jésus. Et Jésus lui répond, « L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. » C'est dans Jean 4, pardon, les versets 22 et 24. Je ne lis pas tout le passage, mais juste ces deux versets. « L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Seigneur, merci de nous parler ce matin, de parler à nos cœurs, à notre intelligence, au travers de ta parole, Seigneur, au travers de ce que tu nous donnes ce matin. Vraiment, je te prie de poser des fondements dans nos cœurs qui ont peut-être été déjà posés, mais que tu veux nettoyer, restaurer. Vraiment, je te prie de nous parler à chacune, chacun, petits et grands, jeunes, vieux, Seigneur, que tu fasses ton œuvre, ton action dans nos vies par ton esprit. Merci, Seigneur. À toi toute la gloire. Dieu recherche de vrais adorateurs. C'est ce qu'il est dit dans ce passage. Sous-entendu qu'il peut y en avoir des faux. Depuis le commencement, il nous a créés pour sa gloire, pour que nous puissions jouir de sa présence, avoir une relation avec lui, être avec lui. Et depuis la chute, où l'homme s'est éloigné de Dieu, Dieu travaille à rassembler son peuple. Il est à l'initiative. C'est lui qui vient à notre rencontre nous révéler qui il est vraiment. C'est lui qui est à l'initiative. Et c'est vraiment mon premier point. Dieu est à l'initiative. Je me suis souvenu de ce verset, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ?» C'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 14. « Vous ne pouvez pas adorer de façon authentique celui que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas chanter les vertus de quelqu'un, crier ses exploits, vanter ses mérites, une louange qui vient des tripes, du fond de son cœur, sans connaître cette personne. » Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, au verset 65. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » C'est Dieu qui est à l'initiative. Nous n'approchons pas Dieu sur la base de notre choix personnel ou de notre capacité. Pour le louer, nous avons besoin de lui. Besoin qu'il nous attire à lui et nous donne la capacité d'apprécier sa beauté, d'apprécier son autorité, besoin qu'il se révèle à nous dans sa parole. La Bible nous dit aussi que Dieu a ouvert un chemin nouveau pour le rencontrer au travers de son Fils Jésus-Christ. Vous connaissez bien ce verset, Hébreux 10, les versets 19 à 22. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Parfois, je ne me sens pas digne d'ouvrir la bouche pour le prier ou pour le chanter. Est-ce que ça vous arrive ? C'est dans des moments comme celui-là que nous avons besoin de nous rappeler que c'est Dieu qui est à l'initiative de notre adoration. C'est lui qui nous qualifie. Nous sommes incapables par nos propres forces. Nous ne pouvons pas louer Dieu, louer Dieu qu'à la bonne place, en Jésus-Christ. Il nous est dit un peu plus loin dans Hébreux 13 au verset 15, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. » Par lui, par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est par lui et non par nos propres forces ou notre créativité que la louange est précieuse à Dieu. C'est du fait qu'elles sont par lui que nos louanges plaisent à Dieu. Quand nous sommes triomphants et quand nous sommes accablés. Quand nous sommes dans la joie et quand nous sommes abattus. La véritable louange commence avec une vision du Dieu de la Bible. Parce que le type de louange que Dieu recherche commence avec Dieu. Le type de louange que Dieu recherche commence avec Dieu. Alors dans ce passage, la femme samaritaine, demande à Jésus où il faut adorer Dieu. En effet, les Samaritains adoraient Dieu sur la montagne, le mont Garizim, alors que les Juifs adoraient Dieu au temple de Jérusalem. Et Jésus, il apporte des éléments nouveaux qui abolissent les anciennes manières de faire, les anciens protocoles. Il ne s'agit plus d'adorer Dieu en un lieu particulier, ni en suivant un certain protocole, comme c'était le cas dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le tabernacle, avec les différents lieux, le lieu très saint, où il n'y avait que le grand sacrificateur qui pouvait rentrer une fois dans l'année, enfin tout ça. Dieu, il abolit tout ça. Il dit, il s'agit de l'adorer en esprit et en vérité. Au lieu que cela soit sur cette montagne ou à Jérusalem, c'est en esprit et en vérité. Ce qui fait que l'adoration est adoration, c'est ce qui se passe en esprit et en vérité. Est-ce que une remarque intéressante à faire, c'est que l'adoration en esprit n'est pas mise en contraste avec l'adoration en vérité. Elles sont mises en parallèle, elles sont sur le même plan, l'adoration en esprit et en vérité. Alors en esprit signifie que notre adoration est inspirée, portée par l'Esprit de Dieu et qu'elle se produit principalement comme un événement spirituel à l'intérieur de nous, pas forcément comme un événement extérieur, corporel. Il est question du cœur. Cette partie de nous qui se connecte à Dieu, en qui nous avons comme un réservoir de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin d'une révélation du Saint-Esprit. Et c'est ce qui se passe quand on donne notre cœur à Jésus. Quand on donne notre cœur à Jésus, quand on décide de le suivre, quand on décide d'accepter ce qu'il a fait pour nous, on appelle ça la conversion. L'Esprit, c'est l'Esprit qui vient nous révéler ces choses. Je me suis rappelé de quelques versets nuls. Hébreux 12, verset 3. « Nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. » Romains 8, verset 14 à 16. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce matin, si tu peux dire « Jésus est Seigneur », c'est parce que l'Esprit est venu dans ton cœur, dans ta vie, te révéler quelque chose de précieux, quelque chose de véritable. Ézéchiel 36, versets 26 et 27, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions. » Et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Le Saint-Esprit vient révéler. Et en vérité signifie que notre adoration doit être façonnée par une connaissance juste de Dieu. Je l'ai déjà dit, hein, mais je le répète. Elle doit être une réponse à une vision juste de qui est Jésus, de qui est Dieu. L'essence même de l'adoration est une réponse de mon cœur à la connaissance de l'Esprit, lorsque notre esprit comprend Dieu de manière juste et que le cœur apprécie Dieu de manière juste. Alors je vais le répéter. L'essence même de l'adoration est une réponse de mon cœur, une réponse du cœur à la connaissance de l'Esprit, lorsque notre esprit comprend Dieu de manière juste et le cœur apprécie Dieu de manière juste. Jésus, il a rappelé un jour aux pharisiens une prophétie d'Ésaïe, des paroles qui sont très dures. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'il me rend un culte. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, au verset 8 et 9. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Le cœur. C'est en vain qu'il me rend un culte. Jésus, il fait ici une distinction très claire entre une manifestation extérieure de la louange des pharisiens et son expression intérieure, ce qu'il y a à l'intérieur du cœur. Pour Jésus, cette adoration, elle est vaine. Elle n'a aucune valeur. Aucune. Vous pouvez aller à autant de rencontres que vous le voulez, autant de soirées de louange que vous le voulez, faire autant d'actions que vous voulez et ne jamais adorer. Si tout cela est extérieur, que rien ne se passe dans votre cœur envers Dieu. Si c'est que extérieur qui se passe, rien à l'intérieur, ça ne vaut rien. Quand le cœur est loin de Dieu, l'adoration est vaine, vide, inexistante. Ce ne sont que des mots, que des gestes, que des attitudes, peut-être dans une église, mais qui n'ont pas de valeur. Nous adorons de manière authentique lorsque notre cœur répond à une vision juste, révélée par le Saint-Esprit et sa parole de qui est Dieu. Amen. Nous adorons de manière authentique lorsque notre cœur répond à une vision juste, révélée par le Saint-Esprit et sa parole de qui est Dieu. Amen. Alors j'aimerais soulever juste mettre un garde-fou, je ne sais pas comment je peux appeler ça, concernant un déséquilibre qu'on pourrait avoir dans notre adoration, dans notre manière de louer le Seigneur. J'espère que je vais trouver les bons mots et que je vais offusquer personne. Ce n'est vraiment pas mon objectif. Mais voilà, c'est des choses qui me travaillent premièrement moi, qui me remettent un peu en question. Je dois être honnête. C'est sain et naturel d'exprimer à Dieu ce que nous ressentons pour lui. C'est normal. C'est normal de lui chanter « Je t'aime ». C'est normal de lui chanter « Je t'aime ». Quand on lit tout ce qu'il y a dans cette parole, c'est normal qu'il y ait une passion qui monte. Puis le Seigneur, est-ce qu'il n'a pas dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force ?» Quand on regarde les psaumes, ils sont remplis de paroles qui expriment la passion pour Dieu. « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». » Le psaume 122, verset 1. « Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. » Psaume 63, verset 2. « Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. » Et puis il y a Pierre aussi qui nous rappelle que bien que nous n'ayons pas vu Jésus, nous l'aimons et nous tressaillons d'une allégresse indicible et glorieuse. 1 Pierre, verset 8. « Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore. Vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse. » Donc c'est normal de retrouver dans nos chants des paroles qui expriment cela. Jésus, nous t'aimons, je te donne tout, je veux te louer, je suis perdu sans toi. C'est normal. Cela fait partie de notre adoration. Mais un déséquilibre peut survenir quand nos chants et nos prières sont dominés par ce que nous pensons et ressentons à propos de Dieu, vis-à-vis de ce qu'il est lui, sur ce qu'il pense et ressent à notre égard. Le danger, ça serait d'alimenter nos émotions avec encore plus d'émotions et petit à petit, insidieusement, en venir à aimer notre propre adoration. J'y vais un peu fort. La louange est centrée sur nous-mêmes plutôt que sur Dieu. Et c'est un peu ce qu'on constate aujourd'hui dans les chants qui sont produits par nos contemporains. Ils sont beaucoup tournés sur mes sentiments, sur ma condition, sur mes émotions, sur mon ressenti. Ce matin, on a chanté des chants que je trouve vraiment beau. Et si je donne un avis sur un chant, c'est pas parce que je veux pas qu'on le chante, parce qu'il est super, parce que je trouve qu'il nous engage. Mais quand on chante, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chante que je chanterai gloire à l'Éternel. Je chante que je chanterai louange à son nom. Je chante que je chanterai Dieu est mon éternel. Alors je comprends, il y a un engagement, mais je chante que je chanterai. Je chante ce que je fais. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chants qu'on chante qui sont comme ça aujourd'hui un petit peu. C'est normal de lui chanter « Je t'aime », mais il y a une réalité plus merveilleuse encore, c'est que lui m'aime. Et pour nous aider, plusieurs points. On peut considérer qu'il n'y a pas de preuve scripturaire de la louange comme expression de notre amour pour Dieu. Par exemple, faites une recherche dans les psaumes, faites une recherche sur « Je t'aime » ou « J'aime ». Il y a deux versets. Le psaume 18, verset 1, « Je t'aime, Éternel ». Le psaume 116, verset 1, « J'aime l'Éternel ». En revanche, les psalmistes font référence à l'amour inébranlable, fidèle de l'alliance du Seigneur pour son peuple, bien plus d'une centaine de fois. Il nous faut aussi considérer, et ça peut nous aider, que nos sentiments, ils sont inconstants. C'est super quand nous sommes pris dans des moments de passion pour le Seigneur. C'est super quand on chante et qu'on est passionné, c'est super. Mais que se passe-t-il lorsque notre amour pour Dieu s'étiole, lorsqu'on est abattu, lorsque les mots « Je t'aime Seigneur » ou « Je te suivrai Seigneur » sonnent hypocrites sur nos lèvres? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, il y a des fois, des dimanches matins, je chante des chants et je suis dans des situations où j'ai du mal à chanter ces paroles. Et c'est surtout dans ces moments-là que j'ai besoin qu'on me rappelle que ma relation avec Dieu n'est pas alimentée ou soutenue par ma dévotion envers lui et par la sienne envers moi. Et cette dévotion s'est manifestée de manière la plus ultime lorsqu'il a donné son Fils unique sur la croix, subissant le châtiment que je méritais pour mes péchés. C'est dans des moments comme ça où je suis abattu, où j'ai besoin qu'on me rappelle que ma relation avec Dieu, avec lui, n'est pas alimentée ou soutenue par ma dévotion envers lui, mais par la sienne envers moi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chanter « Je t'aime », loin de là, ce n'est pas du tout mon propos. Au contraire, il faut continuer à chanter des chants comme ça. Mais c'est aussi important de chanter, et on le fait, et c'est ça qui est super dans notre Église, on le fait, de chanter « Qui est Dieu ?» De chanter ce qu'il fait, de chanter ce qu'il pense de nous. De chanter sa parole. Également, le chant est plus qu'une simple réponse. C'est plus qu'exprimer nos sentiments pour lui. Colossiens 3, verset 16 nous invite à nous instruire et à nous avertir les uns les autres. Il est dit que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Donc quand je chante des psaumes, des hymnes, quand je chante des cantiques spirituels, on s'instruit les uns les autres, on s'avertit les uns les autres. Éphésiens 5, verset 19, nous invite à nous entretenir les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Le chant est donc aussi éducatif. Nous nous rappelons mutuellement ce que Dieu a dit, ce qu'il est, ce qu'il a fait. Et pourquoi toutes ces vérités le rendent si digne de notre louange, de notre affection et de notre obéissance? Nous devrions plus souvent chanter la Bible. C'est Jean souvent qui nous rappelle ça, Jean et. Nous devrions plus souvent chanter la Bible. Elle est parole de vérité. Elle est la parole inspirée du Saint-Esprit, inspirée de l'Esprit. Quand on a fait l'académie, il y a une formation sur la louange que Dieu recherche. Et c'est... Donc c'est abordé à partir des psaumes, et puis j'ai relu un petit peu ce... Il y a des citations que j'aimerais vous lire qui sont inspirantes, je trouve. Le philosophe Roger Scruton a suggéré que la louange est indicateur principal, et l'indicateur principal de ce qu'une personne ou un groupe croit vraiment concernant Dieu et la vie. Il a dit ceci, « Dieu est défini dans l'acte de louange, bien plus précisément qu'il n'est défini par une quelconque théologie. » Si vous voulez savoir ce qu'un peuple croit réellement concernant Dieu, ne passez pas du temps à lire leurs théologiens, mais regardez-les louer, écoutez ce qu'ils chantent, et ensuite vous saurez ce qu'ils croient sur ce Dieu qu'ils louent. Intéressant. Intéressant. Discutable, mais intéressant, je trouve. Je pense que c'est quand même important de s'intéresser à la théologie, et c'est capital. Mais les chants. Et enfin, comme on l'a vu au début, nous montrons notre amour pour Dieu en obéissant à ses commandements. Hein, je vous avais dit au début, c'est bien plus large que les chants et la prière, c'est un style de vie. C'est une obéissance à Dieu. Ce n'est pas simplement en chantant nos sentiments pour lui. Déverser nos cœurs à Dieu en chantant peut être édifiant, mais cela ne doit pas se substituer à l'adoration la plus importante de nos vies qui se révèle par l'obéissance au commandement, l'obéissance à sa parole et à l'amour de ceux qui nous entourent. Amen. La réalité la plus merveilleuse et la plus fondamentale est qu'il m'aime. Dans mon péché, dans mes échecs, dans mon abattement, dans ma distraction, mon insuffisance, mon orgueil, mon égocentrisme parfois, mon hypocrisie, mon apitoiement sur moi-même. La réalité la plus merveilleuse et la plus fondamentale est qu'il m'aime. Ma relation avec Dieu n'est pas alimentée ou soutenue que par ma dévotion envers lui et par la sienne envers moi. C'est une vérité qui transforme la vie et qu'il faut nous rappeler encore et encore. Alors oui, on peut chanter « Je t'aime Seigneur » avec reconnaissance et on peut passer encore plus de temps à nous attarder sur l'amour infiniment plus grand qui alimente et permet le nôtre. 1 Jean verset 4 au verset 10, il est dit « En ceci consiste l'amour, non pas que nous ayons aimé Dieu, mais qu'il nous ait aimés et ait envoyé son Fils comme propitiation pour nos péchés. » Propitiation pour nos péchés, pardon. En ceci consiste l'amour, non pas que nous ayons aimé Dieu, mais qu'il nous ait aimés et envoyé son Fils comme propitiation pour nos péchés. Dieu se révèle à l'homme qui est incapable de le connaître. Il le fait au travers de son Fils, Jésus-Christ, la parole faite chair, et par l'action de son Saint-Esprit dans nos vies. Dieu est à l'initiative de notre louange. C'est lui qui nous attire et nous donne la capacité d'apprécier sa beauté et son autorité. C'est lui qui se révèle à nous dans sa parole et au travers de son Fils. Si nous voulons être de vrais adorateurs, ces vrais adorateurs dont Jésus parle, laissons-nous toucher et transformer par sa parole et par son Saint-Esprit. Ayons nos cœurs à la juste place, en Christ. C'est seulement là que nous pourrons adorer Dieu en esprit et en vérité. Que chacune de nos vies le glorifie chaque jour, en chaque circonstance. Chantons à Dieu de tout notre cœur, en veillant à nous attarder sur l'amour infiniment plus grand qui alimente et permet le nôtre. Et vivons des vies qui, par leurs actes, lui rendent gloire et honneur, par notre obéissance à ses commandements. Amen. Amen. Soyez bénis.
Il y a des prédications qu'on a plus de mal à applaudir. Hein. Mais Jésus ne faisait pas toujours l'unanimité. Merci Pierre. Merci. C'est vrai qu'en ce moment, on a des